C'est l'invité des grandes gueules.
Nous sommes avec un professeur agrégé de philosophie, un docteur en sciences politiques. Jean-Claude Poisat, bonjour.
Bonjour.
Mettez bien, alors là, je vais vous demander de mettre le micro bien devant vous, relevez-le un petit peu.
Voilà.
Voilà, c'est parfait. Donc vous revenez avec ce livre, Pro-Steak. Le carnivorisme est un humaniste aux éditions Albin Michel. Vous allez discuter avec Barbara, mais on va d'abord planter le décor. Pourquoi avez-vous, monsieur le docteur en philosophie, docteur en sciences politiques, monsieur l'agrégé, pourquoi avez-vous décidé de vous fendre de ce livre qui s'appelle Pro-Steak ?
Ben écoutez, j'ai écrit ce livre un petit peu en réaction contre un discours qu'on entend beaucoup dans les médias, qui se développe de plus en plus, qui effectivement aujourd'hui revient à condamner la consommation de viande, ce que j'appelle un front anti-viande, qui prend de l'ampleur. Et tout simplement, en tant que consommateur de viande, je dirais, j'ai voulu m'exprimer sur ce sujet-là parce que je me sens mis en cause, voire culpabilisé dans mon mode de vie. Voilà.
D'accord. Et vous parlez d'idéologue animaliste dans votre livre.
Oui. Alors effectivement, on peut citer des noms. Hein. Il y a des personnalités publiques qui sont intervenues sur ce sujet-là. On peut citer Émeric Caron, notamment que je.
Madame Rousseau.
Voilà, bien sûr, j'allais y venir. Monsieur Caron, je prends un peu pour cible puisqu'il a publié un No-Steak et mon livre, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, c'est le Pro-Steak. Sandrine Rousseau, évidemment.
Albin Michel aussi, je crois d'ailleurs. C'est un auteur albin.
Oui, il a écrit chez Albin Michel, mais je ne suis pas sûr que No-Steak était. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des gens qui portent cette parole dans les médias. Maintenant, en back-office, si je puis dire, on a aussi des théoriciens, des têtes pensantes qui ont élaboré une doctrine qui s'appelle. Alors, il y a plusieurs courants. Il y a l'animalisme, il y a le véganisme, il y a l'antispécisme, j'en parle. Donc, c'est des courants qui. Il y a une sorte de nébuleuse avec des courants, des sous-courants.
Nébuleuse, carrément.
Oui, parce qu'il y a des courants et des sous-courants, si vous voulez, les antispécistes, les véganes, les antispécistes, et puis les animalistes ne disent pas forcément exactement la même chose, mais enfin, il y a des convergences de vues, disons, qui reviennent toutes, finalement, plus ou moins, à condamner la viande.
Voilà, et pour arriver à quoi tu vas prendre part, pour qu'on comprenne. Ils veulent arriver à quoi, selon vous? Quel est leur but, alors?
Alors, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec, disons, le végétarisme éthique. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit « moi, je ne mange pas de viande parce que je ne veux pas qu'on fasse du mal aux animaux, j'ai aucun problème avec ça, c'est tout à fait respectable. » Par contre, j'ai un problème avec le végétarisme politique, à partir du moment où on dit « il va falloir que tout le monde arrête de manger de la viande. » On va imposer, il y a des gens qui s'appellent les abolitionnistes, qui veulent abolir. Donc le terme n'est pas neutre, hein. C'est-à-dire l'abolition, ça fait référence à l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, etc. Donc l'idée, c'est que interdire la viande, ça doit devenir une des grandes causes de l'humanité au XXIe siècle, au XXIIe siècle. Enfin, je ne sais pas.
On avait beaucoup des abolitionnistes, la proportion.
Il y en a, bien sûr.
Oui, non, mais dans le monde animaliste, qui est un monde que je connais bien, puisque j'ai fait plusieurs diplômes et diplômes universitaires, notamment en question d'éthique animale.
D'accord.
Les abolitionnistes, vous en avez très peu, même aux États-Unis, là où vous avez beaucoup, à la suite de Peter Singer et d'autres grands philosophes de philosophie morale, notamment, qui se sont occupés de ces questions-là. L'abolitionnisme, c'est vraiment une portion très réduite de la question de la philosophie animaliste. Non, mais juste pour dire, parce que comme vous parlez de nébuleuse, dans une nébuleuse, il y a un petit côté de complot. Est-ce que pour vous, Corinne Peluchon, Florence Burga ou monsieur Jean-Jean Wilmer, je ne remonterai même pas à Pythagore ou à Porphyre, mais non, mais justement, puisque monsieur est philosophe, est-ce que pour vous, Corinne Peluchon ou Florence Burga font partie d'une nébuleuse qui veut empêcher tout le monde de manger de la viande?
Ça tombe très bien que vous en parlez parce que je leur consacre plusieurs chapitres, justement.
Expliquer à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu
Ce sont des philosophes réfléchissent à la question de l'éthique animale.
Je suis philosophe et je suis venu à cette question par la philosophie précisément et par l'éthique animale. Mais justement, moi, je prends un petit peu la chose à revers. C'est-à-dire que j'ai lu Corinne Peluchon, j'ai lu Florence Burga, j'ai lu Jean-Jean Wilmer, j'ai lu tous ces gens et même beaucoup d'autres, et Singer aussi que vous citez, et je commente ces philosophes parce que les personnalités médiatiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est, si je me permettez l'expression, un peu les têtes de gondole pour faire vendre l'idéologie, mais derrière, les têtes pensantes, effectivement, ont élaboré des doctrines beaucoup plus approfondies. Donc je me coltine, si vous permettez, ces doctrines-là dans le détail, et j'aime ça parce que j'aime les idées, le débat d'idées. Je peux pas résumer comme ça en quelques secondes mon livre, évidemment, et ni développer tous les arguments. Mais bien sûr que ces philosophes-là font partie de ce que j'appelle cette nébuleuse. Corinne Peluchon a écrit un manifeste animaliste dans lequel elle préconise la sortie de la consommation de viande. Enfin, donc elle est abolitionniste, si vous voulez, clairement.
Oui, elle est abolitionniste.
Mais au nom de quoi? Il faut expliquer pourquoi. Est-ce qu'il faut défendre? Puisque c'est ça le débat. Vous dites que vous ne le tranchez pas, d'ailleurs, dans votre livre. Hein. Ce que vous êtes.
Moi, je défends la consommation de viande.
Comment ?
C'est bien choisi comme mot.
Oui, voilà, vous ne tranchez pas, excellent. Oui, tu as raison. pourquoi faut-il sauver l'animal ? Pourquoi est-ce que sauver l'animal, c'est nous sauver, c'est sauver la planète ? C'est ça, pourquoi ? Alors, et arrêter de manger de la viande, donc.
Non, ce que je dis, c'est qu'on peut aimer et défendre les animaux tout en consommant de la viande.
Ça, c'est mon point de vue, c'est ce que
je défends. Et les animalistes voudraient criminaliser les mangeurs de viande en disant que ce sont des ennemis des animaux. Et ça, c'est ça que je récuse complètement. Je dis qu'on peut, et je dirais même plus, les animalistes veulent interdire la relation entre l'homme et l'animal. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire donc l'élevage, la domestication, même l'équitation aujourd'hui est mise en cause.
Non, mais jamais, ni Peter Singer, ni Corinne Peluchon, ni Florence Burga n'ont jamais dit qu'il fallait diaboliser les gens qui mangent la viande, leur interdire de manger de la viande. Vous essayez de fasciser et de faire passer les gens qui veulent apporter une pierre à l'édifice de la question de l'éthique animale. Excusez-nous de ne pas être d'accord avec l'animal machine de Descartes et Malebranche et d'avoir un petit peu avancé, comme Pythagore, comme Montaigne et d'autres. Hein. Excusez-nous d'avoir pris un peu d'avance avec Condillac au XVIIIe siècle.
Pythagore est en avance sur Descartes.
Oui, Pythagore. Sur la question de la question de l'éthique animale, il était,
et
Porphyre était un peu en avance sur Descartes. Excusez-moi, l'animal machine, vous êtes en quelque sorte l'incarnation de ceux qui continuent à voir l'animal comme une machine. Et que donc, par exemple, l'élevage intensif qui a considérablement appauvri notre agriculture, appauvri éthiquement aussi, et appauvri même la condition de nos agriculteurs, leur a fait tellement de mal et a fait tellement de mal à leur écosystème qu'aujourd'hui, forcément, quand on est dans l'animal machine, quand on est favorable à la zootechnie, quand on est favorable à l'appauvrissement même zoogénétique des animaux d'élevage pour pouvoir les consommer, bah si.
Non,
moi, en tout cas.
Ce n'est pas ce que j'écris dans mon livre.
Et vous me permettrez de terminer. Lorsqu'on est à 350 millions de tonnes par an de viande consommée, lorsqu'on est dans le monde à 55 milliards d'animaux terrestres tués par an et qu'en France, rien qu'en une journée, on tue 3 millions d'animaux, je pense, monsieur Poisa, que vous n'avez aucune raison de beaucoup vous inquiéter sur le fascisme vegan qui arrive.
Alors,
vous voyez, je pense que vous avez encore de la marge.
Je peux vous répondre.
Croyez bien.
Vous avez parlé de fascisme, ça tombe très bien, puisque dans mon livre, j'évoque...
C'est vous qui parlez de ça.
J'ai absolument pas parlé de fascisme pour l'instant.
Je vous ai entendu parler de nazification des gens qui mangent de la viande.
J'y viens. Oui, on nazifie les mangeurs de viande.
Carrément.
C'est pas moi qui nazifie les véganes, au contraire. Mais je cite un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Un éternel Treblinka, qui est écrit par un historien qui s'appelle Charles Patterson, qui défend la thèse selon laquelle l'abattage des animaux est équivalent à la Shoah.
Non, pas l'équivalent. Il parle des méthodes d'abattage et de la pensée qui est derrière.
Excusez-moi. Un éternel Treblinka, c'est-à-dire les abattoirs, c'est Treblinka tous les jours.
Mais vous savez comment c'est développé.
Cette thèse est reprise par les animalistes. Par Corinne Peluchon, par Florence Burga, par Jean-Gène Villemer, qui le cite positivement.
Pas comme ça.
Si, exactement comme ça.
Non, parce que c'est pas vrai, vous avez
un philosophe qui s'appelle Patrice. Écoutez, je cite toutes les références sont dans le livre.
Patrice Rouget,
qui explique que c'est Auschwitz. Donc, si vous voulez,
vous prenez des parties de ces textes et vous ne voyez pas la dimension. Non, mais je vais vous dire une chose.
Vous allez faire le coup de la citation.
Vous savez comment s'est développée la pensée de l'industrie de l'industrie en série.
J'ai écrit des pages sur Henry Ford.
Je me permets d'informer le téléspectateur, d'accord. C'est lorsqu'il a visité les centres d'abattage de Chicago.
Je sais tout ça, madame.
Il peut y avoir dans l'industrie de mort, telle que les nazis l'ont mise en œuvre. Rien n'est comparable à la Shoah. C'est certainement pas moi, professeur d'histoire. Végane par ailleurs, professeur d'histoire qui a écrit des livres sur l'enseignement comparé des génocides, qui va me laisser impressionner par un argument d'autorité qui n'en est pas un. Rien n'est comparable à la Shoah. Néanmoins, la question de la méthode industrielle qui consiste précisément à retirer à l'individu que vous tuez tout son caractère d'être vivant sensible, on déshumanise les Juifs pour les tuer dans un système industriel. De la même façon que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui consiste précisément à masquer la dimension barbare de l'élevage industriel et des abattages industriels à travers un espèce de substrat marketing pour nous expliquer que finalement tout ça, c'est un mal nécessaire pour se nourrir.
Excusez-moi,
je ne suis pas d'accord.
Je les ai traités dans mon ouvrage et je maintiens que cette comparaison est choquante, indécente.
Alors, parce que vous ne comprenez pas la comparaison. On ne compare pas l'extermination des Juifs. Pas du tout. On compare la méthode.
Et
c'est ça qui ne va pas.
Le système industriel.
Pourquoi est-ce qu'on peut être carnivore en étant dans un cycle sain et vertueux?
Alors, Moi, je dis très clairement que je défends, bien entendu, le bien-être animal. Et tous les gens qui travaillent avec les animaux sont tenus. D'ailleurs, c'est inscrit dans la législation, dans le droit européen. Vous avez une charte du respect des droits des animaux, reprise dans, par exemple, il y a une convention européenne qui date de 1976, qui a été reprise ensuite dans d'autres textes. Donc, il y a une protection du bien-être animal, et je suis évidemment pour ça. Et en aucun cas, je ne défends la cruauté envers les animaux. Enfin, que les choses soient claires. Je suis contre le mal, contre la méchanceté, contre la cruauté. Enfin, je veux dire, voilà, on voudrait faire passer les gens qui mangent de la viande pour des gens foncièrement mauvais et méchants. Évidemment, on construit, si vous voulez, vous avez une construction idéologique. D'un côté, il y a le bien, d'autre côté, il y a le mal. Donc, le régime vegan, c'est le bien absolu, et la consommation carnée, c'est le mal absolu.
Qui a dit ça ? Mais personne n'a dit ça. Hein.
Je l'argumente dans mon livre.
90% des végans ne pensent pas qu'ils sont l'incarnation du bien absolu.
Moi, je parle pas pour 90% des végans. D'ailleurs, je les connais pas. D'ailleurs, ils représentent 0,3% de la population française.
Vous devriez fréquenter plus d'animalistes et vous devriez discuter davantage avec Florence Burga et Corinne Pelluchon, plutôt que de les lire et de leur prêter des propos qu'elles ne tiennent pas.
Si ça sert à rien d'écrire des livres, je vais m'arrêter là.
Mais non, mais vous leur prêtez des propos qu'elles n'ont pas, donc discutez avec elles dans des débats.
Je lis leurs livres.
Ah ben oui, mais vous. Alors excusez-moi.
Excusez-moi, je lis des livres.
Vous les lisez apparemment avec un biais cognitif et un biais idéologique qui fait que vous y trouvez des choses qu'elles ne disent jamais. Donc voilà.
Alors donc quand je cite les textes et que je les commente, elles n'ont pas écrit ce qu'elles ont écrit.
C'est pas ce qu'elles ont écrit. Écoutez une conférence de Florence Burga et Corinne Pelluchon, c'est pas du tout ça.
Alors de toute façon, les trois quarts, 95% des gens qui sont là ne connaissent pas Florence Burga et Madame Pelluchon.
N'est-ce pas, Frédéric ?
Et on va continuer d'en discuter. Barbara, on vous avait promis que ce serait animé entre Barbara Lefebvre et Jean-Claude Poisat. Ça l'est. Prostec, c'est votre livre. Le carnivorisme est un humanisme, c'est provocateur. Vous expliquez, livre aux éditions Albin Michel. On va continuer d'en discuter. Question dans un instant de Frédéric Farah, le bonze.
J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais en regardant le livre, en lisant le livre, que l'inquiétude va au-delà de ce rapport entre vegan, manger des steaks ou pas, comme s'il y avait une inquiétude qui pesait sur l'humanisme de manière générale et sur la place de l'individu dans la société. Est-ce que j'ai l'impression que c'est ça le fond que l'on entend dans le discours, et la peur que quelque chose qui est au cœur de notre héritage, qui est l'humanisme, est en train de décliner sous les coups de boutoir de ces idéologies-là.
C'est très juste. effectivement, d'ailleurs c'est le sous-titre de mon livre, c'est « Le carnivorisme est un humanisme », donc je m'inquiète effectivement sur l'humanisme et les fondements de l'humanisme, donc je remonte un peu en arrière, un philosophe de la Renaissance, je parle de Montaigne, Rabelais, etc. Tout à l'heure on a évoqué Descartes, que je considère aussi comme un humaniste. Si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que derrière la question de la viande, je pense qu'il y a une quête de pureté, si vous voulez. Il y a une quête d'innocence, quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai rien contre la quête de pureté quand elle est spirituelle, au contraire, elle est respectable. Là où ça me pose problème, c'est quand elle devient politique. C'est quand on dit, voilà, mon mode de vie est pur, moi je suis pur et vous êtes impur, etc. Et je vais vous imposer mon mode de vie.
Ah oui, parce que ça,
pur.
Ce que vous décrivez, voilà. C'est totalitarisme et fascisme. Et là-dessus, on est bien d'accord.
Bon, alors tant mieux. On peut tomber d'accord sur certains points.
C'est pour ça que je ne me sens pas concerné.
Et donc, si vous voulez, c'est là le problème. Et d'autre part, cette quête de pureté, elle est complètement utopique parce qu'on ne peut pas manger des fruits et des légumes sans tuer des animaux, par exemple. Vous voyez, donc c'est-à-dire que tout jardinier sait quand il va cultiver des fruits et du légume dans son jardin qu'il va devoir combattre des tas d'espèces parasites, des insectes, des rongeurs, des lapins, des oiseaux qui vont venir manger ses récoltes. Donc Peter Singer en parle d'ailleurs, il dit qu'est-ce qu'on fait avec les lapins qui viennent manger les fruits et légumes dans notre jardin, nous les végétariens. Alors il y a des gens qui ont des solutions expéditives, on les tue. Dans la ville où j'habite, il y a un maire qui est en train de lancer une campagne pour tuer les lapins parce qu'ils sont en train de dévaster tous les jardins, etc. Bon, alors lui il dit non, il faudrait les stériliser. Bon, voilà, on peut trouver des solutions un peu accommodante. Enfin, on a quand même un problème, c'est qu'on est en compétition avec d'autres espèces et qu'effectivement...
On a bien gagné la compétition, déjà, vous me direz.
Aucune vie n'est innocente et aucun mode d'alimentation n'est pur.
Justement,
manger, c'est sale.
C'est ça qui est intéressant. C'est quelle est votre définition de l'humanisme ? Est-ce que pour vous, l'humanisme, c'est que l'humain est un animal qui, par justement ses capacités intellectuelles, cognitives, etc., c'est accorder le droit légitime de dominer, d'exploiter, de manger tous les autres animaux ? Ou est-ce que l'humanisme, c'est en réalité plutôt une éthique de responsabilité, un sens moral qui permet justement à cet animal, qui est l'animal humain, de tenir compte davantage de la vie des autres, et en particulier de la vie de ceux qui sont des sujets d'une vie, qui ont une existence par eux-mêmes ? Alors, quelle est votre vision de l'humanisme ?
J'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre.
D'accord. Là, donc, quelle est votre définition de l'humanisme ?
Vous me proposez un choix qui n'est pas le mien. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire... D'abord, pour moi, l'humanisme, c'est accepter la condition humaine. Et accepter la condition humaine, c'est que nous sommes mortels, que nous avons à manger, que nous sommes exposés, effectivement, à des maladies, etc., qu'on a des risques de contamination, effectivement, quand on mange, il y a toujours un danger. C'est pour ça que que la viande d'ailleurs crée tant de tensions, c'est qu'il y a toujours la crainte aussi, c'est un aliment qui peut contaminer, qui peut tuer. Donc c'est accepter d'une certaine manière notre mortalité aussi. Et je dirais, c'est accepter que nous avons un corps et que nous ne sommes pas seulement un esprit. Hein, c'est donc pour ça que je me réfère à Descartes, hein, l'union de l'âme et du corps. Pour moi, c'est ça,
c'est
Descartes.
C'est ce que je dis, l'animal-machine.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est
pas ça, ce va avec, en général.
Non, c'est le Descartes des lettres à Elisabeth. L'homme a une âme et un corps. Et nous devons accepter que nous ne sommes pas de purs esprits, nous ne sommes pas non plus purement faits de matière, mais nous avons à concilier cette double nature. Nous avons effectivement à manger tous les jours et manger.
Mais alors, j'ai juste une question. Donc, si on suit votre raisonnement, alors par exemple, le loup, le chat ou l'ours a plus le sens de l'humanisme que moi qui suis vegan, par exemple.
Non, pas du tout. Là, non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais au contraire, bien entendu que l'humain a des droits et des devoirs, y compris des devoirs envers les animaux. Moi, ce que je dis, c'est que le respect envers les animaux est d'abord une forme de respect des humains envers eux-mêmes. Et donc, moi, personnellement, il m'est jamais venu à l'idée de torturer les animaux, de leur faire du mal, mais je vous dirais d'abord par respect pour moi-même et pour mes semblables. Je trouve qu'un humain qui maltraite un animal, il manque de respect aux autres humains. C'est ça, l'humanisme. En fait. Donc, l'humanisme inclut pour moi le respect de l'animal. Or, certains animalistes.
Et est-ce que dans l'élevage intensif, il n'y a pas de torture.
Je termine ce point. Certains animalistes et les plus radicaux voudraient opposer, justement, respect de l'humain et respect de l'animal.
Et l'élevage intensif, c'est pas de la torture.
J'en
pour
parle.
Vous.
Alors, je suis plus élevage extensif, si vous voulez.
Ah oui, pas celui qui nourrit les hommes aujourd'hui.
Si, en partie, si, parce que. L'élevage bovin,
le volaille,
des bovins.
On prend toujours l'exemple de l'élevage
bovin. Mais c'est la viande que j'aime.
Mais vous savez très bien que les classes populaires. Mais vous savez très bien que les classes populaires, elles mangent quoi? Elles mangent de la volaille transformée, toute pourrie. Alors, et que la réalité, c'est que les élevages de volaille et de porc aujourd'hui, c'est l'élevage intensif et c'est celui qui pollue. Moi, je suis d'accord avec vous. L'élevage bovin, s'il n'y avait que de l'élevage bovin, ce ne serait pas ça le problème.
Écoutez, je parle des classes populaires, mais je me méfie aussi, si vous voulez, d'un certain mépris à l'égard des classes populaires, parce que les classes populaires, elles ont accès à la consommation de viande depuis assez peu de temps dans l'histoire, vous êtes historienne, pendant des siècles, elles ont été privées de viande. Donc d'une certaine manière, comme le disent certains historiens, il y a une revanche de la viande, l'accès à la viande, c'est devenu une
cette revanche, c'est aussi une augmentation des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. L'OMS elle-même qui dit que la viande ultra transformée est un gros problème.
On saute un peu d'un sujet à l'autre.
La charcuterie et la viande ultra transformée est un problème de santé publique, monsieur, reconnu par l'OMS, et même Santé publique France aujourd'hui dit qu'il faut manger 500 grammes de viande par semaine.
Je cite les chiffres.
100 grammes pour les moins de 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 86 kilos de viande par an par Français. Les Américains sont à 75. Et ce qu'il faudrait, c'est être à environ 20 kilos. C'est être à 20 kilos à la fois pour l'environnement et pour la santé. 20 kilos de viande par semaine. Par an.
Non, ils sont à 130, les Américains. C'est le pays où on consomme le plus de viande après Hong Kong. Le record du monde, c'est Hong Kong, 140 kilos.
Ça baisse plus vite aux États-Unis qu'en France.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la viande, manger de la viande, le carnivorisme, c'est le patriarcat, comme le défendent aussi.
Qui dit ça?
Sandrine Rousseau, on sort toujours Sandrine Rousseau. Le virilisme du barbecue.
Elle mange de la viande, Sandrine Rousseau.
Je m'adresse à Monsieur Poisat.
On mange de la viande, ça déclenche des incendies en Afrique. Bon, alors voilà, Fabien Roussel a ironisé là-dessus, à juste titre, à mon avis, parce qu'il y a des raccourcis qui sont vraiment caricaturaux. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre. Moi, j'ai un propos, finalement, je pense, assez nuancé et modéré dans mon livre, même si le titre peut sembler un peu provocateur.
Moi, j'aime bien.
J'essaye de tenir un discours un peu raisonnable. Je connais les chiffres que vous avancez. D'ailleurs, certains sont pas tout à fait, j'ai pas tout à fait les mêmes que vous, mais peu importe. Mais d'autre part, oui. Alors sur la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des raccourcis.
Est-ce qu'on mange trop de viande?
Alors, il y a une surconsommation dans les pays occidentaux.
En 2021, les chiffres. J'ai trouvé les chiffres de 2021 qui étaient un Français mangeait en moyenne 31 kilos de porc par an, 28 de volaille. Et 22 de bœuf.
Mais je peux rejoindre madame.
6 kilos en tout.
Je peux rejoindre madame sur
l'idée que... On était à 23 kilos par an dans les années 60 en France.
Non seulement on mange trop de viande, mais c'est vrai qu'on peut manger aussi de la viande de mauvaise qualité. Bon, et donc je suis d'accord qu'il peut y avoir une nocivité pour la santé. Donc moi, je suis pour le moins, mais mieux, évidemment.
On est bien d'accord là-dessus.
Alors, on peut se rejoindre, vous voyez, sur certains plans. On pourrait consommer moins de viande, mais de meilleure qualité. Voilà. Donc je suis plutôt pour les élevages extensifs, pour un meilleur contrôle des élevages intensifs.
Mais là, vous nourrirez pas la planète. Hein.
Mais nourrir la planète.
Ni la France, hein.
Si vous voulez, l'argument quand c'est à dire qu'il faut manger moins de viande pour mieux nourrir la planète, il a aussi des effets pervers. C'est-à-dire qu'à terme, si on doit augmenter la surface agricole, on va aussi déforester, on va aussi utiliser des intrants chimiques.
Provoquer vous avez 80% de la surface agricole qui est consacrée au fourrage. Alors excusez-moi, si vous dégagez une grande partie des plantes fourragères qui servent à l'alimentation du bétail et que vous transformez ces surfaces agricoles en surfaces agricoles de végétaux pour l'alimentation humaine, non, vous ne déforestez pas plus. Vous reconvertissez des terres agricoles qui aujourd'hui servent aux plantes fourragères.
L'agriculture provoque aussi des nuisances pour l'environnement, pour le climat.
Tout à fait.
Mais voilà, donc
est-ce
qu'on opposer est... l'agriculture à l'élevage, à mon avis, c'est un
non-sens. Je ne l'oppose pas, je les relis.
Est-ce qu'on est dans un sens de l'histoire aujourd'hui? Alors, il y a peut-être les tenants d'une véritable idéologie, politique, philosophie, mais est-ce qu'on n'est pas dans un sens de l'histoire qui fait que la Terre, il y a une prise de conscience sur les ressources, sur le fait qu'on est allé trop loin dans l'élevage intensif, un sens de l'histoire qui fait qu'on est en train de réduire un peu notre consommation de viande ou
deux
pas
choses,
sans avoir forcément besoin d'être mené à la baguette, et je mets des guillemets.
Alors, quand j'entends le mot sens de l'histoire, je vous dis tout de suite, j'ai une réticence, parce que les idéologies du sens de l'histoire, on en a connu aussi au XXe siècle, hein, l'idée qu'on sait où on va, il y a une direction qui est toute tracée, et toute l'humanité y va, etc. Je veux dire, c'est dangereux, c'est pas non plus, enfin, personne ne sait exactement, ne connaît l'avenir, et j'allais dire, heureusement.
Connaît le sens de l'histoire.
Voilà, exactement. Oui, mais voilà, donc oui, il y a des tendances, effectivement, et le deuxième point, c'est que je ne suis pas en désaccord avec l'idée de réduire la consommation de viande dans les pays occidentaux qui surconsomment, mais ce qui va se passer, c'est que les pays émergents, de toute façon, vont augmenter leur consommation. Donc, à l'échelle mondiale, la consommation de viande va continuer d'augmenter.
Exactement.
De toute façon. Donc, la tendance, si vous parlez de sens de l'histoire, la tendance mondiale, ça va être l'augmentation. Il y a ce qu'on appelle la transition alimentaire, qui fait que quand une société se modernise, les gens consomment, ont une alimentation plus variée, ce qui est une bonne chose, parce que c'est bénéfique pour la santé. Et
c'est pour ça qu'on voit l'explosion de l'obésité en Chine, l'explosion de l'obésité au Vietnam, pays qui d'abord
avait
une alimentation beaucoup plus...
Mais ce qui est un peu
indécent
dans l'histoire, c'est que les pays occidentaux disent, voilà, nous, on a atteint un bien-être alimentaire, mais il ne faudrait pas que les autres y aient accès parce que ça va détruire la planète.
Non.
Il y a quelque chose d'un peu indécent là-dedans.
Justement, monsieur, excusez-moi, le bien-être alimentaire, ça fait depuis plusieurs années qu'aujourd'hui, on le remet en question. Parce que, évidemment, la faim a reculé et c'est heureux. C'est heureux que la faim ait reculé.
La faim a disparu en Occident.
Puisqu'avec un hectare, on nourrit beaucoup plus de gens aujourd'hui grâce aux progrès technologiques.
Voilà.
Néanmoins, dans le même temps, on a une érosion de la diversité zoogénétique, comme j'ai expliqué, puisqu'on a de moins en moins
de
diversité des races d'élevage, parce que pour fabriquer la viande, le lait et les œufs, on réduit le nombre d'espèces à celles qui vont être les plus productives, puisqu'on est dans de l'industrie. Et par ailleurs, je pense que vous mesurez que, bien sûr, ce recul de la faim conduit... Nous, au contraire, on est l'exemple de ceux qui avons fait le choix de l'industrialisation et qui impacte notre santé. On voit bien l'augmentation des maladies cardiovasculaires, l'obésité qui est liée bien sûr à d'autres facteurs, la sédentarité, on fait ce qu'on veut, mais aussi à l'alimentation et en particulier à la viande transformée et ultra transformée. Donc on peut ne pas vouloir que pour les pays émergents se passe le même délire que nous, ce qu'on est en train de subir aujourd'hui.
Mais le problème,
si vous
c'est
avez envie
que
qu'on ressemble aux Américains obèses, c'est votre problème, mais pas moi.
Peut-être que ces pays émergents, ils ont le droit de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent.
Ben moi,
peut-être qu'ils ont envie d'accéder à un niveau de vie équivalent avec des standards de vie qui leur permettent de manger équilibré,
les Japonais,
d'avoir une vie plus saine.
Les Japonais qui mangent de la viande et qui mangent du poisson, donc vous voyez, ils ne sont pas véganes, ou les Sud-Coréens, quand on voit l'alimentation...
Non, les Japonais mangent du bœuf aussi, du bœuf wagyu.
Ils mangent du... Oui, mais quel genre de bœuf?
Oui,
mais précisément, monsieur, quelle qualité d'aliment?
Mais je vous rejoins
et
sur la qualité,
ils vivent
madame.
100 ans, pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation équilibrée. Mais regardez maintenant certains jeunes Japonais qui bouffent en plus la malbouffe occidentale, eh bien, ils ont des problèmes. Donc, encore
Merci.
Une fois, notre modèle n'est pas le modèle à transposer partout.
On vous avait promis un débat, il a eu lieu. Jean-Claude Poisat, Prostec, le carnivorisme est un humanisme, à lire aux éditions Albin Michel. Merci Barbara, merci Monsieur Poisat,
merci
à nos deux figurants du jour.
Merci.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.